8h47 sur France Culture, le groupe britannique Thomas Cook, pionnier du voyage organisé, a donc fait faillite. Hervé Gardet, il laisse sur le carreau 22 000 employés, l'occasion de s'interroger sur les effets du tourisme de masse.
Chaque événement produisant son lot de formules toutes faites, il n'y avait aucune raison pour que la faillite de Thomas Cook échappe à la règle. Ce sera donc la plus grande opération de rapatriement depuis la Seconde Guerre mondiale. Formule spectaculaire, analogie un peu stupide. Attendez-vous à ce que les rédactions envoient des reporters de guerre à travers le monde pour accompagner le retour des touristes. La chronique de cette faillite semble faire moins de cas pour l'instant du sort des 22 000 employés du voyagiste britannique. C'est que le phénomène d'identification ne fonctionne pas de la même manière. À l'heure du tourisme de masse, nous étions tous de potentiels clients de Thomas Cook. Ce qui leur arrive aurait pu nous arriver à nous. C'est notre condition d'homo touristus que cette actualité interroge. Alors les défenseurs de l'environnement y trouveront peut-être une raison de se réjouir, car le tourisme pollue et accentue le réchauffement. Selon une étude publiée l'an dernier dans la revue Nature Climate Change, le secteur contribue à hauteur de 8% aux émissions mondiales de gaz à effet de serre, à condition d'ajouter au transport le bilan carbone des infrastructures touristiques. Il pollue et il dégrade. Exemple le plus fameux, celui de Venise et de sa lagune. 30 millions de personnes lui rendent visite chaque année, soit 545 touristes par habitant. La ville tremble sur ses fragiles fondations. Alors la faillite de Thomas Cook est-elle le signe annonciateur d'un renversement de tendance? Bien, la réponse est catégorique. C'est non. Si le groupe britannique succombe, c'est face à la concurrence des agences en ligne, des voyages à prix discount, du Brexit aussi semble-t-il, mais pas parce que le secteur va mal, bien au contraire. Ainsi, l'an dernier, 1,4 milliard de personnes ont passé au moins une nuit dans un pays étranger, une augmentation de 6% par rapport à 2017 selon les statistiques de l'Organisation mondiale du tourisme. Et toujours selon l'OMT, ils seront 1,8 milliard en 2030. Alors il faudrait pouvoir agir sur le nombre, limiter la quantité de touristes pour contenir leur impact. Mais c'est oublier deux choses. D'abord que le tourisme est un bon indicateur du niveau de vie des populations. Les chiffres de l'OMT en témoignent. Cette activité n'est pas à la portée de tous. Elle signale un certain seuil de développement, de bien-être économique. Ensuite, c'est oublier que la possibilité de partir en vacances, de voyager, est un acquis de haute lutte. 1936, le Front populaire. Sans congés payés, pas de touristes. En tout cas, pas autant. Le tourisme de masse est la traduction d'un progrès social. Lutter contre le premier, c'est donc aussi remettre en cause le second. Dès lors, les discours qui dénigrent ce surtourisme sont à double tranchant. Prenez par exemple l'écrivain Sylvain Tesson, digne héritier d'un Nicolas Bouvier, d'une certaine idée du voyage. Dans un récent entretien au journal Le Monde, l'auteur de « Dans les forêts de Sibérie » fait le constat d'une « starbuckisation » du monde, une uniformisation des lieux de tourisme, offrant, dit-il, un visage rassurant parce que reconnaissable, même commerce, même trottinette, même signalétique. À cette uniformisation, Tesson oppose le voyage, cette expérience de l'autre. L'autre véritable vous heurte, vous emporte ou vous indigne, mais au moins n'est-il pas votre reflet. Alors difficile de ne pas adhérer à un tel discours, mais il s'en dégage, sans doute de manière involontaire, une forme de condescendance, une vision discriminante du voyage, l'idée que le monde se divise entre ceux qui savent voyager et ceux qui ne savent être que des touristes. On en trouve un autre exemple plus décomplexé dans une tribune récente de l'essayiste Olivier Babot dans Le Figaro, sus au tourisme de masse. Le voyage, écrit-il, n'est plus le lent cheminement d'une caste cultivée qui cherchait à apprendre, mais l'expression d'une quête de sens désespérée de populations culturellement désorientées. On ne visite plus réellement une cité, on l'observe de haut à travers le double vitrage d'horribles autocars qui embouchent les rues. Et Olivier Babot d'inviter à voyager moins, mais voyager mieux pour réserver ses déplacements à des lieux que l'on choisit vraiment et avec lesquels a été tissé par avance un lien affectif et intellectuel nourri de lecture. Une approche très 19e siècle du voyage, très aristocratique. Heureuse époque où l'on ne connaissait pas encore les congés payés.